Bon, on va avoir la joie d'avoir un pasteur de Savoie venir nous annoncer la parole ce matin. Pour ceux qui le connaissent pas trop ou qui ne le connaissent pas, Raphaël Pinson et sa femme Rimena et leurs trois enfants se sont installés à Chambéry. Ils ont passé des années ici avec le souci de commencer une étude biblique pour qu'elle devienne éventuellement une église. Et ça fait déjà combien d'années ? Trois années qu'ils sont là-haut. Et Raphaël est un pasteur bivocationnel. C'est un nom pour dire que il travaille à temps plein et en plus il est pasteur. On est vraiment béni par ce que le Seigneur est en train de faire par eux, à travers eux, en eux. Et sans plus attendre, je vais demander à Raphaël de bien vouloir venir annoncer la parole.
Bonjour à tous. Je suis très très béni d'être là aujourd'hui. C'est vrai que ça fait, pour ceux qui nous connaissent, je suis resté presque 6 ans ici, on va dire 5 ans et demi dans cette église. J'ai été richement béni par l'œuvre de Pierre et Nancy ici, et on a été très tristes de partir. On est parti parce que on sentait que le Seigneur nous appelait, et on n'est pas triste d'être parti. Hein. On n'est pas triste d'être parti, on sait qu'on est au bon endroit, mais c'est vrai que quand on revient ici, ça nous fait toujours chaud au cœur de se rendre compte qu'on a encore une famille qui est là, et c'est vraiment très très vraiment un moment de joie pour nous d'être là. C'est pas souvent. On va prier un peu avant d'étudier. Seigneur, merci de nous rassembler ici ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie que ton Esprit nous révèle ta parole, Seigneur, qu'il parle à nos cœurs pour nous encourager, pour nous reprendre. Merci parce que ta parole est vivante et qu'elle nous enseigne. Glorifie-toi ce matin parmi nous, Seigneur. En ton nom. Amen. Quand Pierre m'a appelé il y a quelques jours, il m'a dit, bon, t'es prévenu, comme il y a la conférence des femmes, à laquelle ma femme Jimena est d'ailleurs aussi, il y aura principalement des hommes. Pas que. Pas que. Mais il y aura plus d'hommes que d'habitude, on va dire. Je lui ai dit, ça va me changer. Parce que nous, dans notre groupe, on a surtout des femmes. On a une grande majorité de femmes. Malheureusement, des femmes, il y a des femmes seules, parce que leurs maris les ont laissées, par exemple. Et il y a aussi des femmes dont les maris ne viennent pas. Et on a un homme dans la communauté qui vient régulièrement. On n'est pas très nombreux, hein, mais on a un homme qui vient. Et j'avais prévu de partager ce matin quelque chose avec vous dans l'Exode. Et finalement, je vais partager quelque chose avec vous dans l'Exode, mais pas le chapitre que j'avais prévu. En fait, la semaine dernière, on étudiait dans le livre de l'Exode et on étudiait un passage qui parle des hommes dans l'aide qu'ils peuvent apporter, enfin qu'ils pouvaient apporter à Moïse dans le cadre de l'Exode. Et ça m'embêtait beaucoup d'enseigner ce passage, parce que comme je vous ai dit, il y a principalement des femmes dans notre groupe. Et donc j'étais là et j'enseignais, je disais, et donc voilà, donc on va en parler là, hein, mais le rôle des hommes, etc. Et je dis, bon, donc c'est bien d'avoir des hommes dans l'église qui peuvent prier, qui peuvent encourager, etc. Et donc nous, on n'est pas très nombreux, on est contents parce qu'on est deux. Voilà, mais et du coup je me disais, ça m'embête de donner cet enseignement, c'est presque gênant avec un groupe majoritairement de femmes. Et je me disais, bah, peut-être que ce matin, ça pourrait vous encourager de regarder ce passage ensemble. Dans les églises Calvary Chapel, en fait, on considère souvent qu'on a un mode de fonctionnement qui est sur le mode de Moïse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un pasteur qui dirige l'église. Et souvent, c'est vrai que quand on pense à Moïse, on pense à un pasteur qui dirige. Parce que Moïse, il était pasteur, hein, c'était son métier. Il est resté 40 ans dans le désert à guider les moutons. Ça l'a préparé pour guider le peuple à travers le désert. Et c'est vrai que souvent, on pense à Moïse comme le super pasteur qui fait tout. Il arrive devant la mer rouge, il frappe la mer avec son bâton, la mer s'ouvre et puis tout le monde suit. Le seul qui a fait quelque chose, c'est Moïse. Il a frappé la mer, hop, la mer s'est ouverte, tout le monde a suivi. Il est arrivé de l'autre côté, il a refrappé la mer, ça s'est refermé. Et puis tout le monde était là, tout le monde était content. Et puis à chaque fois qu'il y a un problème, le peuple se plaint. Et c'est Moïse qui va voir Dieu, Dieu lui donne des ordres. Et puis Moïse répète tout au peuple. Et puis finalement, le peuple n'a pas d'accès à Dieu, c'est juste Moïse qui fait les choses. Alors ça pourrait être tentant de se dire finalement c'est comme ça que ça se passe. Il y en a un qui a la tête, c'est Moïse. Et puis il fait tout. C'est lui qui ouvre la mer, c'est lui qui ferme la mer, c'est lui qui va voir Dieu. Mais dans le passage que je voudrais qu'on regarde, on va voir comment ça s'est organisé justement assez rapidement au moment de l'Exode et pendant les 40 ans de traversée du désert. On va prendre au chapitre 18 de l'Exode. À partir du verset 13. Pour le contexte, ça fait quelques semaines, quelques mois que les Israélites ont quitté l'Égypte. Ils sont au début de leur périple à travers le désert et ils viennent d'avoir une grande bataille avec les Amalécites. Les Amalécites, donc il y a un peuple, les descendants d'Amalek, qui les ont attaqués par derrière. Et donc il y a eu une grande bataille où Moïse était en haut d'une colline avec Aaron et Hur, et où ils priaient pour le peuple. Et tant qu'ils priaient, le peuple gagnait. Et donc ils ont vaincu les Amalécites. Et là, au chapitre 18, en fait, Moïse rencontre Jéthro, son beau-père, qui vient lui rendre visite avec sa femme, puisqu'a priori, Moïse avait renvoyé sa femme chez elle quelques chapitres plus tôt, a priori dans Exode 4. Donc il se rencontre, il y aurait beaucoup à dire sur ce passage-là, mais je voudrais prendre à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Alors le peuple, on estime qu'il y avait à peu près 2 à 3 millions de personnes. Ça fait beaucoup de gens. Quand ils se déplacent comme ça, quand la manne tombe, etc., on imagine, on peut imaginer la taille de ce peuple qui doit être nourri par Dieu, qui doit recevoir de l'eau de la part de Dieu, et puis qu'il faut juger. 2-3 millions de personnes, ça fait une grande ville. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Ah oui, puisque Moïse est le seul à avoir accès à Dieu, à chaque fois qu'il y a un problème, on vient le voir. Et c'est lui qui dit ce que Dieu a dit qu'il fallait faire. Dieu n'a pas encore donné précisément tous les commandements. Ce n'est pas écrit dans le marbre. Donc, on va voir Moïse, c'est lui qui représente la parole de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi et tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. » Tu ne pourras pas l'amener... Pardon, j'ai déjà lu ça. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Il jugeait le peuple de manière permanente. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et jugeait eux-mêmes toutes les petites causes. Donc là, on voit qu'en fait, pendant les 40 ans où le peuple était dans le désert avec Moïse, Moïse n'était pas tout seul, ce n'était pas lui qui gérait tout. Ça n'aurait pas été possible avec 2 à 3 millions de personnes. En fait, quasiment dès le départ, il y avait ce système qui avait été mis en place avec des responsables à différents niveaux. En fait, il y avait 2 types de responsables. Ici, ce qu'on voit, ça va se rapprocher de ce qu'on va appeler dans l'Église des anciens. Et il y avait d'autres types de responsables qui étaient déjà là, Aaron et Hur, par exemple, qui étaient les prêtres. Donc des responsables qui étaient chargés des tâches du quotidien, notamment de tout ce qui était du jugement, du jugement des affaires, de l'application des règles, de la loi. Et puis des personnes qui étaient chargées de la partie religieuse, de la partie spirituelle, qui étaient donc les prêtres, entre autres Aaron, Hur et Moïse en particulier. Donc ils étaient chargés, eux, de venir devant Dieu pour les appels, les questions plus difficiles. Cette organisation avec des hommes qui sont choisis pour juger le peuple et pour aider la tâche du responsable, de Moïse, on la retrouve à plusieurs endroits. On la retrouve, entre autres, dans le Nouveau Testament. Et le passage auquel on pense souvent, c'est Actes 6. Dans le chapitre 6 des Actes, ce moment où l'Église commençait à s'organiser, et surtout au moment où il y avait non seulement des chrétiens qui venaient du monde juif de Jérusalem, de Palestine, comme c'était le cas des premiers apôtres, des premiers disciples qui venaient de Galilée, qui venaient de Judée, mais aussi des juifs qui venaient du monde grec, du monde helléniste. Et puis comme ils n'avaient pas la même culture, il y avait un petit peu des disparités, un petit peu des tensions des fois entre ces deux groupes. Et on voit dans Actes 6 qu'en fait il y avait un problème au début du chapitre 6. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les juifs de culture grecque contre les juifs de culture palestinienne, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Donc il n'y avait pas, la CAF à l'époque. C'était très important d'avoir un ministère auprès des femmes seules, auprès des veuves et des orphelins. Et l'Église donc supportait les veuves et les orphelins qui étaient dans la communauté. Et en fait, dans l'organisation de ce support, les veuves de culture grecque étaient moins bien servies que les veuves de culture palestinienne, de culture d'origine de la région palestinienne. Donc les 12 apôtres convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère. Et donc ils ont choisi 7 personnes, qu'on a appelées les anciens ou les diacres, et qui ont commencé à servir la communauté. Donc là, c'était pour un rôle précis, c'était pour organiser la distribution et l'aide aux veuves. Mais dans l'Église, il y a ce besoin d'avoir une aide pour l'organisation, pour la gestion des différentes tâches de l'Église. Et puis on retrouve une notion d'ancien tout à la fin du Nouveau Testament, dans la vision de Jean, dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 4, Jean a la vision du trône de Dieu. Il voit le trône de Dieu, et devant ce trône de Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 24 anciens qui sont devant le trône de Dieu en permanence. C'est dans Apocalypse 4, verset 10. « Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. » Pardon, se prosterne devant celui qui est assis sur le trône, adore celui qui vit au siècle des siècles et dépose leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Donc il y a cette vision du trône de Dieu, et devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 24 anciens, 24 personnes qui ont un rôle particulier, qui leur a été délégué, et leur rôle c'est quoi ? C'est de se prosterner devant Dieu pour adorer. Si on prend tout ça, qu'on regarde dans l'Église, dans la communauté, il y a effectivement un pasteur qui est en charge de la direction spirituelle de l'Église, comme Moïse était en charge de guider le peuple. Mais ce pasteur, il ne peut pas faire le travail tout seul. Des fois, il va être débordé parce qu'il y a plein de choses à faire, parce qu'il y a des jugements à faire, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, ben moi j'ai un problème avec ça, moi j'ai un autre problème avec ça, il faudrait que tu m'emmènes à la gare, et puis j'ai besoin de faire telle ou telle chose. » Ou ça peut être pour des problèmes spirituels aussi. Il a besoin d'être entouré spirituellement aussi. Et donc, on voit ce besoin d'avoir des hommes qui vont assister le pasteur, des hommes qui vont avoir un rôle d'ancien, de diacre, pour servir dans l'Église, pour décharger des tâches comme Moïse avait besoin d'être déchargé des tâches de jugement. Et puis, dans les églises Calvary Chapel, en règle générale, on a aussi ce qu'on appelle des assistants pasteurs ou des qui vont être l'équivalent un petit peu des prêtres dans l'Exode, dans l'organisation israélite, et qui vont assister dans la tâche spirituelle. Il y a 2 ans, j'étais allé à une conférence de pasteurs en Allemagne, et c'était très intéressant parce qu'il y avait eu 2 groupes. Il y avait d'un côté ce qu'on appelle les pasteurs seniors, les pasteurs principaux des églises, et puis de l'autre côté, les assistants pasteurs. Moi, j'étais dans le groupe des assistants, et c'était très intéressant parce que le sujet, c'était comment est-ce qu'on peut aider notre pasteur dans sa tâche. Alors évidemment, la principale manière de l'aider, c'est de prier pour lui. Mais j'étais particulièrement touché parce qu'on avait parlé de cette organisation de l'Église et il y avait un pasteur qui était là, qui a été assistant pasteur, puis pasteur principal, puis à nouveau assistant pasteur, qui est Bruce Müller, qu'on aime beaucoup, et qui a été assistant pasteur, entre autres, de Chuck Smith, le fondateur de Calvary Chapel, et qui disait souvent, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que Chuck Smith, quand il était là, parce qu'il est décédé depuis quelques années, c'était un petit peu justement Moïse, un petit peu en mode « je contrôle tout », qui décidait de tout, un petit peu de manière autoritaire. Il dit que ce n'était pas du tout le cas en fait. Il était toujours entouré d'anciens, et il ne prenait les décisions qu'à l'unanimité. Pourquoi est-ce que les décisions se prennent à l'unanimité ? Le modèle qu'on a là, ce n'est pas un modèle démocratique. Ça ne veut pas dire qu'on pense que la démocratie, c'est forcément une mauvaise chose. Politiquement, ça peut être intéressant. Dans l'organisation qui est donnée dans la Bible et dans l'organisation biblique, on n'est pas dans un modèle démocratique. Celui qui dirige, en réalité, ce n'est pas le pasteur. Celui qui dirige, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. À l'époque de Moïse, il n'y avait que Moïse qui avait accès à Dieu. Donc quand il y avait des problèmes difficiles, c'était Moïse qui montait sur la montagne, qui allait parler avec Dieu, et Dieu lui révélait comment résoudre le problème. Maintenant, la situation, elle est un petit peu différente pour nous. Elle est un petit peu différente parce qu'il y a toujours un grand prêtre, on a toujours un intermédiaire avec Dieu, mais cet intermédiaire, c'est plus Moïse, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Le seul intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes, tous les hommes, c'est Jésus-Christ, qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Et parce qu'il est pleinement Dieu, non seulement il a accès à Dieu, mais il a accès complètement à Dieu, à la pensée de Dieu, à l'identité de Dieu. Et parce qu'il est pleinement homme, nous, on a accès à lui pleinement aussi. Et non seulement ça, mais il nous a donné son esprit. Et tous, on a accès à son esprit. Alors si on a tous accès à l'esprit de Dieu, et qu'on a un seul grand prêtre, qui est Jésus, ça veut dire qu'on a tous accès à la même sagesse, à la même guidance. Donc si c'est comme ça, il n'y a plus besoin qu'il y ait juste une personne, Moïse, qui aille devant Dieu pour demander à Dieu comment résoudre le problème. Mais s'il y a un collège d'anciens, ce n'est pas possible que les anciens n'arrivent pas à la même conclusion, s'ils sont tous guidés par l'Esprit-Saint. J'avais été touché de cette idée-là, de dire, mais finalement, en s'entourant avec des anciens, c'est une garantie, parce qu'on ne va pas faire un vote à main levée pour dire qui est d'accord pour faire telle ou telle chose, mais plutôt dire, tant que tout le monde n'a pas été convaincu par l'Esprit-Saint de la direction à prendre, c'est qu'il manque quelque chose. Parce qu'a priori, si vous êtes tous chrétiens, si vous suivez tous Jésus, si vous avez tous reçu l'Esprit-Saint, il n'y a pas de raison que l'Esprit-Saint dise des choses différentes à une personne ou à une autre. Voilà, je voulais vous encourager parce que je sais que c'est pas toujours simple. On peut facilement se dire, mais finalement, moi je suis pas pasteur. J'ai pas reçu de formation, je suis pas à temps plein, je suis pas supporté, j'ai pas forcément ni le temps, ni la vocation. Mais vous êtes tous appelés à avoir un rôle dans l'Église. Et quand je dis tous, ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi les femmes, évidemment. Vous êtes tous appelés à avoir un rôle. On a un appel qui est le même pour tous, qui est de faire des disciples, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples. Mais je pense que les hommes en particulier ont à s'investir particulièrement dans l'Église. On voit beaucoup, beaucoup de pasteurs qui se retrouvent à faire beaucoup de choses, qui se retrouvent à faire trop de choses, peut-être, des fois, parce qu'ils ne sont pas assez soutenus. Parce qu'on est dans une idée de professionnalisation, un petit peu. Chacun son rôle, chacun son métier. Et je pense que chacun, vous avez la responsabilité d'aider. Et la principale chose à faire, la première chose, et c'est ce qu'on voit faire à la fin, devant le trône de Dieu, qu'est-ce que font les anciens ? Ils adorent Dieu, ils prient, ils remettent les choses, ils intercèdent. Je pense que c'est la principale tâche que vous pouvez faire déjà, c'est ça, c'est de porter l'Église, de porter votre pasteur, de porter Pierre dans la prière et de l'encourager et d'être présent aussi pour l'aider, le décharger avec les tâches du quotidien parce qu'il y en a beaucoup et ça peut facilement être très lourd. Voilà, je voulais vous encourager avec ça ce matin. Moi, quand j'ai partagé cette chose-là la semaine dernière, je me disais, bah voilà, j'ai un homme dans mon groupe. Et j'avais l'impression depuis quelques temps que j'attendais d'en avoir plus pour faire quelque chose. Et j'ai vraiment été repris par le Seigneur à ce moment-là de me dire combien il a fallu de pierres à David pour abattre Goliath. Il en a utilisé combien ? Il en a utilisé une. Et il n'en a pas pris beaucoup, il en a peut-être choisi 3 ou 4 dans la rivière, mais il ne s'est pas fait un sac énorme dans son dos avec plein de pierres au cas où. Et je me suis vraiment senti repris en me disant, voilà, le Seigneur m'a confié un homme dans mon groupe, il m'a donné one shot, il m'a donné un coup à envoyer, et je ne l'utilise pas parce que j'attends d'avoir 3 pierres ou 4 pierres, dans ma poche, pas des pierres comme pierres, hein, des cailloux. Je pense que tous, vous êtes appelés à servir le Seigneur, si vous avez été appelés par Christ. Je ne sais pas comment, mais vous êtes appelés à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et Moïse lui-même, qui a guidé le peuple à travers le désert, il pensait qu'il n'en était pas capable. Quand Dieu l'a appelé sur la montagne, il a trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas le faire. Bon, il avait des excuses quand même. Il avait quand même 80 ans. Alors franchement, quand même, Dieu aurait pu trouver quelqu'un d'autre que quelqu'un de 80 ans pour aller se balader en Égypte, aller voir Pharaon et faire sortir 3 millions de personnes dans le désert pour retourner en Canaan. Non, Dieu voulait servir de Moïse. Et Moïse disait, oui, mais moi, je ne peux pas aller parler à Pharaon, tu comprends, j'ai des problèmes pour parler, j'ai des problèmes d'élocution, j'ai la langue un petit peu lourde, je ne suis pas très très doué. On peut tous se trouver des excuses. On peut tous se trouver soit des excuses en disant, je ne suis pas capable, je n'ai pas les ressources nécessaires, je n'ai pas la formation nécessaire, ou je n'ai pas le temps. Les excuses, ça peut être aussi, j'ai d'autres priorités. J'ai une famille, j'ai pas le temps, donc je ferai quand mes enfants seront partis. Ou mon travail est trop prenant, j'ai pas le temps. C'est une question de priorité. Sachez que si vous pensez avoir besoin, c'est une autre chose où j'ai été repris récemment, si vous pensez avoir besoin de quelque chose, vous aurez besoin de cette chose. C'est un verset, je ne l'ai pas en tête là, tout de suite. Je vais le citer de tête, mais il n'est pas exact, il faudra que je le retrouve exactement. Du fait que les Israélites pensaient avoir besoin d'avoir des chevaux rapides, Dieu leur dit, parce que vous pensez avoir besoin d'avoir des chevaux rapides, vos ennemis seront plus rapides que vous. C'est un principe, si vous pensez avoir besoin de sécurité, de garantie, si vous pensez avoir besoin de travailler 5 jours par semaine pour être sûr d'y arriver, si vous pensez avoir besoin de mettre telle ou telle chose en priorité par rapport à Dieu, ben vous aurez besoin de faire ça. Mais si vous mettiez Dieu en priorité, vous vous rendriez compte que ces choses ne sont pas nécessaires et pas aussi prioritaires qu'elles en ont l'air. Parce que Dieu va s'occuper de ces choses. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous guides. C'est toi qui es le chef et le berger de ce troupeau. Je prie que tu nous aides Seigneur à rechercher, à connaître ta volonté, à te suivre, à te servir, Seigneur. Aide chacun ici à trouver comment tu es à l'œuvre déjà dans leur vie, comment tu es à l'œuvre dans nos vies, Seigneur, pour nous associer à toi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui œuvres d'abord, Seigneur. C'est toi qui travaille dans les cœurs, dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, parce que si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, on va travailler en vain. Alors aide-nous simplement à nous associer à ton œuvre, à reconnaître ce que tu fais déjà et à désirer nous associer à toi pour te servir. Pas parce que tu as besoin de nous, mais parce que tu te réjouis d'avoir une communion avec nous quand nous décidons de rechercher ta face et d'œuvrer pour toi, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons chacun accès à toi. Que par ton sacrifice, Seigneur, tu nous as réconciliés à toi. Que toi, Jésus, tu es devenu notre grand prêtre, un grand prêtre parfait qui s'est sacrifié lui-même. Et que tu peux nous guider chacun d'entre nous, personnellement, dans tes voies. Sois glorifié, Seigneur, dans chacune de nos vies. Encourage-nous, Seigneur, à rechercher ta face pour te servir. Au nom de Jésus. Amen.
On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir mis ce message sur le cœur de Raphaël. Seigneur, tu vois, cette petite congrégation avec un seul homme seulement. Et on te prie vraiment de... Merci d'avoir repris Raphaël sur le fait qu'il n'a pas besoin d'avoir cinq pierres. Il peut déjà faire quelque chose avec cet homme et cette pierre qu'il représente. Seigneur, je te demande de l'encourager. Lui qui travaille à temps plein et qui a trois enfants, une famille dont il s'occupe et toute cette charge de travail et en même temps le désir d'être utilisé par toi pour amener la parole qui sauve, l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile autour de lui. On te demande de le fortifier intérieurement, physiquement. Lui, sa femme, ses enfants, mais aussi dans la congrégation. Merci de faire lever des personnes qui vont l'aider. Et Seigneur, je te remets cet homme, qu'il voit son rôle, qu'il est vraiment à cœur d'aider Raphaël. Et Seigneur, nous prions aussi pour cette église. Tu vois que en ce moment, il y a des tâches qui devraient être qui pourraient être assurées par d'autres qui ne le sont pas. Seigneur, on prie pour ton aide, on prie aussi pour que les personnes qui soient là réalisent que oui, il y a plein de tâches qui sont accomplies sans que nécessairement les personnes qui les accomplissent demandent de l'aide. Et on prie que ce soit ton Esprit Saint, Seigneur, qui touche les cœurs. On veut pas faire de forcing, on veut pas demander directement mais faire connaître les besoins. Et Seigneur, merci parce que je sais que beaucoup parmi nous sont prêts à aider lorsqu'on le demande. Je te bénis pour ceux qui sont en train de s'occuper des enfants ce matin, malgré l'absence du personnel habituel de l'école du dimanche constituée de beaucoup de femmes. Et c'est vrai, Seigneur, merci de faire que le travail soit supporté par tous, Seigneur, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je te remercie parce que j'ai dans cette église des hommes qui sont prêts à mettre leur cœur à l'ouvrage, Seigneur, et bénis-les. Et Seigneur, fais qu'on grandisse tous. Et je te remets en particulier les jeunes. Je suis béni par ces jeunes qui s'engagent auprès des adolescents, auprès des enfants. Bénis-les et montre-leur que leur tâche est aussi importante que celle du pasteur ou de n'importe qui, Seigneur. Parce qu'ils ont un contact direct avec des enfants qui vont les comprendre, les respecter, entendre et recevoir les paroles qu'ils ont à dire. Seigneur, fortifie-nous, et c'est vrai que l'ennemi veut nous rendre inefficaces, l'ennemi veut nous abattre, que ce soit par la maladie, la fatigue, les problèmes, la division, le manque de vision. On te demande vraiment, Seigneur, de nous mobiliser tous. La tâche est urgente, on voit qu'il y a beaucoup de danger à l'horizon. On pense que ton retour est très proche, Seigneur. On voit les progrès des fausses religions de l'islam qui est en train de se révéler sous son aspect le plus terrible, Seigneur. Mais on pense à nos frères et sœurs persécutés, et Seigneur, on te demande pardon parce que nous avons du mal des fois à nous lever le matin pour venir prier, nous avons du mal pour te servir. Encourage tous les hommes ce matin ici, et toutes les femmes aussi, Seigneur. Merci pour les enfants que tu nous confies. C'est vrai que c'est une responsabilité, c'est du travail qui peut être épuisant, qui peut être très prenant. Donne-nous, comme le rappelait Raphaël, tes priorités, Seigneur. Tout dans la vie est une question de priorité. Nous avons tous, que nous soyons au chômage, ou le président des États-Unis, ou le président de la France, nous n'avons tous que 24 heures par jour. Seigneur, aide-nous à commencer chaque journée en nous tournant nos cœurs vers toi, pour recevoir nos instructions de toi. Bénis tous mes frères ici, bénis tous les femmes encore une fois qui terminent leur conférence, qu'elles soient vraiment rechargées spirituellement et émotionnellement. Seigneur, permets-leur de garder les contacts. Et encore une fois, je te remercie pour le passage de Raphaël et Rimena. Que leur séjour ici soit riche, qu'ils puissent reprendre contact avec les amis qu'ils ont laissés il y a quelques années et qui sont restés des amis, Seigneur. Merci pour la joie de voir ton œuvre s'étendre. Sois guide et fortifie Raphaël et Rimena et l'assemblée de Chambéry, Seigneur. Te demandons toutes ces choses dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen.